Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 119, Daf Kufyud Tet. Bonne écoute et bon limoud.
Dirtiv car le pasuk dit dans Malachim Aleph, Perek Bet, Vehayamim asher malach David al Israël 40 shana, Bechevron malach sheva shanim, etc. Et les années qu'a régné David Amelech sur les Bnei Israël, c'était en tout 40 ans. Pendant 7 ans, il a régné à Hebron et pendant 33 ans dans la ville de Yerushalayim. Donc, en ajoutant ces 33 ans aux 20 ans que nous avions auparavant, nous avons en tout 53 ans. Ou Beshlomo Ktiv, et à propos de Shlomo, le pasuk dit dans Divrei Hayamim Bet, Perek Gimel, Vayachel Livnoto, Beshnat Arba Lemalchuto. Et il a commencé à le construire, le sanctuaire, la quatrième année de son règne. Nous avons donc en tout 57 ans. Et c'est à ce moment, comme nous l'avons dit précédemment, que se sont écoulés les 480 ans à partir de la sortie d'Égypte. En tout cas, donc, le sanctuaire est resté à Nov pendant 13 ans, comme nous l'avons dit précédemment, et les 44 années suivantes, il était à Givon. Nishtairu le Shilo, il reste donc pour le sanctuaire de Shilo, de ce compte de 480 ans, Shloshmot Veshivim Chaserachat, 369 ans. Car comme nous l'avons expliqué précédemment, les différents sanctuaires dans le désert à Gilgal, à Nov et à Givon ont existé pendant 110 ans, plus une année supplémentaire de la sortie d'Égypte où il n'y avait pas encore de sanctuaire, il y a donc 111 ans. En déduisant ces 111 ans des 480 ans, il nous reste 369 ans pendant lesquels le sanctuaire existait à Shiloh. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Baoul Nov et Givon, etc. » Lorsqu'ils sont arrivés à Nov et à Givon, les hôtels privés ont été permis. La Gemara demande « Menan et Milé, d'où le sait-on ?» La Gemara répond « Etanou Rabanan, car nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta qui interprète les psukim dans Dvarim Yudbet. » Le pasuk dit « Vous ne pourrez pas offrir tous les sacrifices que vous avez l'habitude de le faire aujourd'hui lorsque le sanctuaire se trouve dans le désert, mais plutôt chacun ne pourra offrir que ce qui lui plaît, donc uniquement les sacrifices facultatifs qui pourraient être offerts sur l'autel privé comme nous l'avons vu précédemment. » Le pasuk poursuit en disant « Kilo batem adata el amenucha vel anachala » car vous n'êtes pas arrivé jusqu'alors au repos et au patrimoine. Alors la Braïta interprète « El amenucha » l'expression « au repos zu shilo » cela correspond au sanctuaire qui se trouvait à Shiloh. « Nachala » le patrimoine « zu Yerushalayim » ce terme correspond au sanctuaire qui se trouve à Yerushalayim. « Lama chilkan » pourquoi est-ce que le pasuk les a séparés ? Pour mentionner séparément le sanctuaire de Shiloh et celui de Yerushalayim. Car à partir du moment où ils sont arrivés à Yerushalayim, les hôtels privés ont été interdits pour toujours. Si les hôtels privés auraient été interdits à partir du moment où le sanctuaire a été érigé à Shiloh, le pasouk aurait pu se contenter uniquement de mentionner celui de Shiloh. Il n'avait pas besoin de mentionner celui de Yerushalayim. Forcément, Kedeliten Eter Benzeleze, c'est pour accorder une permission d'ériger des hôtels privés entre celui-ci, donc le sanctuaire de Shiloh, et celui-ci, le sanctuaire de Yerushalayim. Amar le Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Resh Lakish a posé la question suivante à Rabbi Yochanan. Nous lisons selon la Shita Mekoubetset, Yachi, si c'est ainsi que la sainteté du sanctuaire de Shiloh a entièrement disparu. Par conséquent, le sanctuaire qui le remplace, c'est Nov et Givon, bien que sa sainteté est moindre, car les hôtels privés sont permis. Maaser Sheni Namilitne. On aurait dû enseigner aussi la loi concernant la seconde dîme, que celle-ci doit être consommée au sanctuaire, donc celle-ci devrait être consommée dans la ville de Nov et Givon où se trouve le sanctuaire. Pourquoi est-ce que la Mishnah ne le dit pas ? Amarle, Rabbi Yochanan lui répond, Maaser, en ce qui concerne la seconde dîme, Sham Sham Me'aron Kayalfe. On apprend les lois concernant cette seconde dîme, des lois concernant l'Arche Sainte, par le moyen d'une Xerashava dont le support est le terme Sham. En effet, à propos de l'Arche Sainte, le Pasuk dit dans Shemot même, Venatata Sham et Aaron, tu placeras là-bas, dans le sanctuaire, l'Arche Sainte. Et concernant la seconde dîme, le pasuk dit dans Dvarim Yudbet, Vachaltem Sham, etc. Et vous mangerez là-bas, au sanctuaire, la seconde dîme et les sacrifices que vous aurez offerts dans le sanctuaire. En tout cas, puisqu'ils sont comparés, Kivan d'Aaron Lohava, puisque l'Arche Sainte ne se trouvait pas ni au sanctuaire de Nov, ni au sanctuaire de Givon, comme nous l'avons vu précédemment, Maaser Nami Lohavai, n'y avait pas la sainteté spéciale pour la seconde dîme dans la ville de Nov et de Givon. Par conséquent, il pouvait être consommé n'importe où en Eretz Israël. Car ce commandement de consommer la seconde dîme dans la ville de Yerushalayim ou dans la ville où il y a un sanctuaire n'existe que lorsqu'il y a un commandement de les amener là-bas. Ce commandement n'existe que si l'Arche Sainte s'y trouve. Donc, lorsqu'il se trouvait à Nov et Givon, il n'y avait pas le commandement d'amener la seconde dîme au sanctuaire. Il n'y avait donc pas de restriction quant à l'endroit où il pouvait être consommé. Cependant, comme il est expliqué plus haut d'Af Samech Amud Bet, aujourd'hui, étant donné que la sainteté de Yerushalayim et du sanctuaire n'a pas entièrement disparu, mais l'autel ne se trouve pas à Yerushalayim, d'une part, le commandement d'emmener la seconde dîme à Yerushalayim existe toujours. Cependant, puisque l'autel n'existe pas, comme c'est expliqué là-bas, il sera interdit d'y consommer la seconde dîme. En la Gemara demande, Yachi, si c'est ainsi, si nous l'apprenons par le moyen d'une Gzera Shava dont le support est le terme Sham des lois concernant l'Arche Sainte, Pesach ve Kodashim Nami, en ce qui concerne le Korban Pesach et les autres sacrifices aussi, il ne devrait pas pouvoir être offert ou consommé à Nov et à Givon des Sham Sham Me'aron Yalfe, car si on applique cette Gzera Shava dont le support est le terme Sham, on devrait aussi l'appliquer concernant les sacrifices, car finalement, le terme Sham dans Dvarim Yudbet s'applique soit pour la seconde dîme, soit pour les sacrifices, comme c'est écrit dans le Passouk. On devrait donc les comparer à l'Arche Sainte, de Kivan d'Aaron Lohava, et puisque l'Arche Sainte ne se trouvait pas à Nov et à Givon, Inhunami Lohavu, ces sacrifices aussi ne pouvaient pas exister, donc ne pouvaient pas y être offerts. Amarle, Rabbi Yochanan lui répond, en fait il se ravise, de Amar Lecha, Ha Mané, je te dirai qui est l'auteur de la Mishnah qui ne mentionne pas parmi les particularités de Nov et de Givon que la seconde dîme devait y être consommée. Rabbi Shimon Hi, c'est en fait Rabbi Shimon de Amar qui dit Af Tzibur, même le public, Loikrivu et la Pesar Vechovot à Kavu Alaimzman, n'ont offert dans l'autel public de Nov et de Givon que le Korban Pesar et les sacrifices obligatoires dont le moment de l'offrande est fixe. Aval chovot shen kavualaimzman, mais en ce qui concerne les sacrifices obligatoires dont le moment de l'offrande n'est pas fixé, hacha vehacha lokarev, ici et ici, c'est-à-dire soit sur l'autel privé, soit sur l'autel public, il n'était pas offert. Maaser behema, la dîme des animaux, chovot shen kavualaimzman hu, c'est en fait un sacrifice obligatoire dont le moment de l'offrande n'est pas fixé. Et celui-ci, donc, ne pouvait pas être offert à l'époque de Nov et de Givon. Ve'itkash ma'aser dagan le ma'aser behema. Et le pasouk juxtapose dans Dvarim Yudbet par le terme ma'aserotechem. Il s'agit donc de deux dîmes. La dîme des céréales, donc, la seconde dîme, et la dîme des animaux. Alors, puisque la dîme des animaux ne peut pas être sacrifiée à Nov et à Givon, on ne pourra pas non plus y consommer où il n'y a pas de commandement plutôt de consommer la seconde dîme à Nov et à Givon. Par conséquent, cette seconde dîme pouvait être consommée n'importe où. Donc finalement, la seconde dîme est comparée à la dîme des animaux et non pas à l'Arche Sainte. Par conséquent, on ne peut pas poser la question concernant les autres sacrifices qui ne sont pas comparés à la dîme des animaux. Alors, la Gemara demande Miklal, nous pouvons donc déduire de là, de le Rabbi Yehuda Karev, que selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qui dit que tous les sacrifices qui pouvaient être offerts dans le désert pouvaient être offerts aussi à Gilgal et donc à Nov et à Givon aussi. La dîme des animaux pourrait être sacrifiée à Nov et à Givon et par conséquent, la seconde dîme serait aussi consommée à Nov et à Givon. La Gemara répond, « In oui, de ha'amar ravadabar matna, ma'aser sheni ou ma'aser behema nechalim benov et Givon, les divrei Rabbi Yehuda. » La seconde dîme est la dîme des animaux sont consommés à Nov et à Givon, selon l'opinion de Rabbi Yehuda. La Gemara demande, Vehaba et Bira, pourtant, il faut le palais, c'est-à-dire, puisque le Passouk dit que la seconde dîme doit être consommée devant Hachem, apparemment, cela exige que le sanctuaire soit parfait, dans le sens que même l'Arche Sainte doit s'y trouver. Sans cela, on ne pourra pas y consommer la seconde dîme. Comme le précise Lohalat Shlomo, cette question se pose uniquement selon Rabbi Yehuda, qui, selon lui, le commandement d'amener la seconde dîme au sanctuaire existe même à l'époque de Nové Givon. Et c'est là-dessus que la Gemara demande que pour pouvoir consommer la seconde dîme, il faut que le sanctuaire soit parfait, que l'Arche Sainte s'y trouve. Mais selon Rabbi Shimon, qui dit qu'à cette époque, il n'y a pas du tout de commandement d'amener la seconde dîme au sanctuaire, il n'y a pas non plus de restriction quant à l'endroit où il pourra être consommé. La Gemara répond, « Velav tane Rav Yosef, n'est-ce pas que Rav Yosef a enseigné dans une braïta, « Shalosh biroten, il existe trois palais. » Donc il y a eu trois palais successivement, Shiloh, le premier c'est le sanctuaire qui se trouvait à Shiloh, « Venov et Givon » et celui qui s'est trouvé à Nov, puis a été déplacé à Givon, ou Bet Olamim, et aussi le troisième, donc c'est le sanctuaire qui se trouvait à Yerushalayim. Hu Tanela vehu Amarla, lui a rédigé cette braïta, et il a dit là-dessus, donc il l'a interprété de la manière suivante, Le'achilat ma'aser sheni valibad Rabbi Yehuda, la raison pour laquelle nous devons considérer Nov et Givon comme étant un palais, c'est pour pouvoir consommer la seconde dîme, et ce selon l'opinion de Rabbi Yehuda. En fait, ce que Rav Yosef veut dire, c'est que même si à Nov et à Givon, il n'y avait pas l'Arche Sainte, cependant, à cet endroit était le sanctuaire et l'autel public. Cet endroit pouvait être considéré comme étant le palais, et donc nous considérons cet endroit comme étant devant Hachem pour pouvoir consommer la seconde dîme. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Baoul Yerushalayim » lorsqu'ils sont arrivés à Yerushalayim, les hôtels privés furent interdits à tout jamais, et c'est l'endroit que le pasouk appelle Nachala. La Gemara dit là-dessus, Talou Rabbanan ou Chachamim enseigné dans une braïta. Lorsque le pasouk dit dans Dvarim Yudbet, Kilobatem Adata, El Hamenucha, Ve El Hanachala, car vous n'êtes pas encore arrivé ni au repos, ni au patrimoine, Menucha Zu Shilo. Le terme Menucha se rapporte au sanctuaire qui se trouvait à Shilo. Car comme la Gemara le dira plus loin, c'est à cet endroit que les Béné Israël se sont reposés de la guerre, de la conquête d'Eret Israël. Nachala, le terme de Nachala, patrimoine, Zou Yerushalayim, ce terme fait allusion au sanctuaire qui s'est trouvé à Yerushalayim. Ve'omer, et ainsi il est dit dans Yirmiyahu Yudbet, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, Haïta li Nachalati ke Arye Bayar, mon patrimoine ressemblait au lion dans la forêt qui rugit. Ainsi, le peuple d'Israël poussait des cris de détresse lorsqu'ils étaient volés par les mécréants de l'époque. Ve'omer, il y a un autre passouk, toujours dans le même chapitre, qui dit « Ha'ayit tzavua nachalatili ha'ayit saviv aleha » Est-ce que mon patrimoine ressemble à un oiseau de proie plein de couleurs qui est haï par les autres oiseaux et qui l'attaque constamment? Est-ce que les oiseaux de proie l'entourent pour l'attaquer? En fait, comme l'explique le Maharsha, le terme « Nachala patrimoine » dans ces deux psukim se rapporte plutôt au Bnei Israël. En fait, la Gemara aurait dû rapporter un pasouk plus loin dans ce même chapitre, où Hachem dit « Ainsi dit Hachem à tous mes mauvais voisins qui ont touché le patrimoine que j'ai donné au Bnei Israël, etc. » Le terme « Nachala patrimoine » se rapporte effectivement au sanctuaire qui se trouvait à Yerushalayim. En tout cas, nous voyons de ces psukim que le terme Nachala se rapporte au sanctuaire qui se trouvait à Yerushalayim. D'ivrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Menucha zu Yerushalayim. Le terme Menucha, repos, se rapporte au sanctuaire qui se trouve à Yerushalayim. Nachala, patrimoine, zu Shilo. Ce terme fait allusion au sanctuaire qui se trouvait à Shilo, car c'est là-bas qu'Eret Israël a été partagé parmi les différentes tribus. Ve Omer, et le pasouk dit dans Tehilim Kuflamedbet, Zot menuchati adead po eshev ki vitiha. Celle-ci, donc, cet endroit, comme nous le verrons par la suite, il s'agit du sanctuaire de Yerushalayim, et mon repos pour toujours, c'est ici que je résiderai, car j'ai eu envie de cet endroit, donc du sanctuaire de Yerushalayim. Ve Omer, et il est dit dans un autre pasouk, toujours dans le même chapitre, Ki bachar Hashem betzion iva le moshavlo, car Hashem a choisi Tzion, donc c'est le sanctuaire qui se trouve à Yerushalayim, il a eu envie d'elle pour lui servir de siège. Nous voyons de ces psukim que le terme menucha se rapporte au sanctuaire qui se trouvait à Yerushalayim. La Gemara demande Bishlama le mandamar menucha zushilo. On comprend bien, selon l'avis qui dit que le terme menucha se rapporte à Shilo, haynu dirtiv, c'est cela que le pasuk dit. Et c'est donc l'ordre qu'il a choisi, el hamenucha vel anachala, car vous n'êtes pas arrivé ni au repos, ni au patrimoine, donc ni à Shilo, où ils sont arrivés en premier, ni à Yerushalayim. Et là, le mandamar menucha ze Yerushalayim nachala zushilo, mais selon l'avis qui dit que le terme menucha se rapporte au sanctuaire qui se trouve à Yerushalayim, et le terme de nachala se rapporte au sanctuaire qui se trouvait à Shilo, et la nachala ve la menucha mi baele. Le pasuk aurait dû s'exprimer en disant, car tu n'es pas arrivé ni au patrimoine, donc à Shilo, ni au repos, donc à Yerushalayim. L'agma répond, Hachika Amar, c'est cela que le pasuk veut dire. La raison pour laquelle les autels privés sont permis et tu ne peux offrir que des sacrifices facultatifs, c'est parce que l'homme ibaya menucha de l'omatitu, car non seulement vous n'êtes pas arrivé au repos, donc à Yerushalayim, et la filou le nachala nami l'omatitu, mais même au patrimoine, vous n'êtes pas encore arrivé. Donc, à l'époque qui précède Shilo, les autels privés étaient permis. Tana de Be Rabbi Ishmael, il a été enseigné dans une braïta, dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, Zou Vezou Shilo. Les deux termes, donc soit le terme menucha, soit le terme nachala, se rapportent au sanctuaire qui se trouvait à Shilo. La Gemara expliquera. Cependant, selon lui, de même qu'après la destruction du sanctuaire de Shilo, les autels privés furent permis, il en est de même après la destruction du sanctuaire à Yerushalayim. En effet, comme la Gemara le dit dans Maseret Megillah Daf Yud, il y a des avis selon lesquels il est permis d'offrir des sacrifices sur des autels privés après la destruction du sanctuaire de Yerushalayim. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Zou vezou Yerushalayim. Cela et cela, donc soit le terme de menucha, soit le terme de nachala, se rapporte au sanctuaire qui se trouvait à Yerushalayim. Et selon lui, donc, jusqu'à ce que les Bnei Israël sont arrivés au sanctuaire de Yerushalayim, les autels privés furent permis, donc même à l'époque où le sanctuaire se trouvait à Shilo, les autels privés étaient permis. La Gemara expliquera. Alors, Bishlama le mandé amar menucha zu Shilo, on comprend bien encore, selon l'avis qui dit que le terme de menucha se rapporte au sanctuaire qui se trouvait à Shilo.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kufut Tet Amud Bet. Nachala zu Yerushalayim, et le terme de Nachala se rapporte au sanctuaire qui se trouve à Yerushalayim, inami ifra, ou bien, même si c'est le contraire, que le terme de Menucha se rapporte à Yerushalayim et le terme de Nachala se rapporte à Shilo, haynu dirtiv el hamenucha ve'el hanachala. Nous comprenons bien pourquoi le pasuk sépare les deux termes en disant vous n'êtes pas arrivé au repos ni au patrimoine. Et là, il s'agit donc de deux endroits différents. Et là, le man de Amar zu vezu Shilo, mais selon l'avis qui dit que les deux termes se rapportent au sanctuaire qui se trouvait à Shilo, au zu vezu Yerushalayim, ou bien ces deux termes se rapportent au sanctuaire qui se trouve à Yerushalayim, Menucha Nachala Mivaele. Le pasuk aurait dû s'exprimer en disant vous n'êtes pas arrivé au repos, qui est aussi le patrimoine. Pourquoi les a-t-il séparés de manière à sous-entendre qu'il s'agit de deux endroits différents? La Gemara répond Kachéa, c'est une question à laquelle la Gemara n'a pas trouvé de réponse sur le moment. La Gemara demande à nouveau Bishlama Lemandamar Zouvezu Shilo. Nous comprenons bien encore, selon l'avis qui dit que ces deux termes, donc soit le terme de Menucha, soit le terme de Nachala, se rapportent à Shilo. Nous comprenons bien, car Menucha, le terme de repos, c'est parce que des Nachum et Kibush, ils se sont reposés de la guerre, de la conquête d'Eretz Israël, Nachala, et patrimoine, c'est parce que des Palgu Atam Nachalot, car c'est là-bas qu'ils ont partagé les patrimoines, donc la terre d'Eretz Israël, entre les différentes tribus d'Irtiv. Car le pasuk dit dans Yoshua Yutret, nous lisons selon la note marginale, Vayashlech lahem Yoshua goral bishilo lifne Hashem, Vayechalek sham Yoshua et Taharetz, etc. Et Yoshua a procédé à un tirage au sort à Shilo devant Hashem, et il a partagé là-bas la terre d'Eretz Israël entre les différentes tribus des Bnei Israël. Nous voyons donc que c'est à Shilo que le partage a eu lieu, et c'est pour cela que le sanctuaire qui se trouve à Shilo peut aussi se nommer Nachala patrimoine. Et là, le mandat amar zu vezu Yerushalayim, mais selon la vie qui dit que ces deux termes, donc Menucha et Nachala, se rapportent au sanctuaire qui se trouve à Yerushalayim, Bishlama, Nachala, on comprend bien encore que le sanctuaire d'Yerushalayim s'appelle Nachala patrimoine. C'est parce que Nachalat Olamim, c'est parce que cet endroit est le patrimoine pour toujours. En effet, une fois que le sanctuaire a été érigé à Yerushalayim, c'est cet endroit qui a été toujours choisi et qui sera toujours choisi pour l'érection du sanctuaire. Le deuxième sanctuaire y a été érigé, et lorsque le Mashiach viendra, le troisième sanctuaire le sera aussi. Et là, Menucha, mais en ce qui concerne le repos, Maï Menucha, que veut dire le terme de repos en ce qui concerne le sanctuaire de la ville d'Yerushalayim? La Gemara répond, Menucha Taron, c'est l'endroit où repose l'Arche Sainte. Dirtiv, car le Pasuk dit, Vayehi Kenoach Aaron, et il fut lorsque l'Arche Sainte reposa. En fait, il n'y a pas de pasouk qui dit cela, mais plutôt, comme le dit Rashi, il faudrait plutôt dire le pasouk dans Divrei Hayamim Bet Perek Vav. C'est Shlomo HaMelech qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu dans sa prière après l'érection du sanctuaire. Kuma Hashem Elokim Lenuchecha Ata Va'aron Uzecha. Lève-toi Hashem pour te reposer, toi et l'arche de ta force. Ainsi, il demande à Kadosh Baruch Hu de résider toujours dans le sanctuaire d'Yerushalayim ainsi que l'Arche Sainte. C'est pour cela donc que le sanctuaire d'Yerushalayim s'appelle Menucha. La Gemara demande à nouveau, Bishlama le mandamar zuvizu Yerushalayim, on comprend bien selon l'avis qui dit que cela et cela, c'est-à-dire soit le terme de Menucha, soit le terme de Nachala, se rapporte au sanctuaire qui se trouve à Yerushalayim. Aval, Shiloh, Hava, Sharia, Bamot, mais à l'époque où le sanctuaire se trouvait à Shiloh, les hôtels privés étaient permis. Haynu dirtiv, c'est cela que le pasuk dit dans Shoftim Yud Gimel, Vayikach Manoach et Gedi Ha'izim v'et Hamincha, Vayal al Atzur l'Hashem. Et Manoach a pris le chevreau et l'offrande à base de farine, et il l'a fait monter sur le rocher pour l'offrir pour Hashem. Manoach, qui était le père de Shimshon, était à l'époque où le sanctuaire se trouvait à Shiloh. Quand même, nous voyons qu'il a offert un sacrifice sur un autel privé. Alors selon cet avis qui dit qu'à l'époque de Shiloh, les hôtels privés étaient permis, nous comprenons ce qu'il a fait. Et là, le mandat amar zuvezu Shiloh, mais selon l'avis qui dit que cela et cela se rapporte à Shiloh, c'est-à-dire les deux termes, soit de Menucha, soit de Nachala, se rapportent au sanctuaire qui se trouvait à Shiloh. D'ailleurs, la question se pose aussi sur les autres avis, ou Bamot Haba Asiran, et donc les hôtels privés étaient interdits. Mai Vaikach Manoach. Que veut dire le pasouk lorsqu'il dit eh, « Manoach a pris le chevreau, etc. et les a offerts comme sacrifice » Autrement dit, comment cela se fait qu'il a pu le faire? L'agma répond « Hora tcha'aita » Il l'a fait sur ordre exceptionnel qu'il a reçu par l'intermédiaire de l'ange qui lui est apparu. « Tana de Berabi Ishmael ke Rabbi Shimon ben Yochai » Il a été trouvé une braïta dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael qui enseignait l'interprétation du pasouk comme l'a fait Rabbi Shimon ben Yochai, de Amar Zu Vezu Yerushalayim, qui disait que cela et cela, donc soit le terme de Menucha, soit le terme de Nachala, se rapporte au sanctuaire qui se trouvait à Yerushalayim, Bissimaner. Et voici un signe pour mémoriser que c'est les élèves de Rabbi Ishmael qui ont changé d'avis et non pas Rabbi Shimon bar Yochai. Mashre Gavra le Gavre, un homme solitaire a tiré vers lui les hommes nombreux. La suite du shiur sera sur la prochaine cassette. Nous sommes Masechet Zvachim Daf Kufutet Amudbet à la fin de la 17e ligne du haut de la page. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Kol HaKodashim, etc. Tous les sacrifices qui ont été désignés comme sacrifices à l'époque où les hôtels privés sont interdits et ils ont été sacrifiés à l'extérieur du sanctuaire, celui qui l'a fait a transgressé un commandement positif, un commandement négatif et il est condamné à une peine de retranchement dans le monde futur. Mais les sacrifices qui ont été sanctifiés lorsque les hôtels privés étaient permis, mais ils ont été sacrifiés en dehors du sanctuaire alors que les hôtels privés étaient interdits, celui qui l'a fait a transgressé un commandement positif et un commandement négatif, mais il n'est pas condamné à une peine de retranchement dans le monde futur. Et cela, comme l'Agmara l'explique plus haut, Daf Kufav Amud Bet, le paragraphe qui parle de l'interdiction de sacrifier un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire dans Vaikra Yudzayin commence par parler de cette interdiction et condamne cette personne à une peine de retranchement dans le monde futur. Puis le pasouk poursuit, la Gemara explique là-bas que le deuxième passage du paragraphe parle de sacrifices qui ont été sanctifiés alors que les autels privés étaient permis, donc avant l'érection du sanctuaire dans le désert. Et il parle aussi là-bas d'une interdiction de le sacrifier à l'extérieur du sanctuaire après l'érection du sanctuaire. Puis le passouk conclut en disant « Ceci sera une loi pour eux pour toujours ». Le terme « ceci, zot » est une restriction qui dit que la peine du retranchement dans le monde futur ne s'applique que pour les sacrifices qui ont été sanctifiés alors que les autels privés étaient interdits. Mais si les sacrifices en question ont été sanctifiés à l'époque où les autels privés étaient permis, la peine du retranchement dans le monde futur ne s'applique pas. Nous ne disons cela qu'il n'y a pas de peine de retranchement dans le monde futur pour celui qui sacrifie un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire alors qu'il a été sanctifié à l'époque où les autels privés étaient permis et la Beshrita, c'est uniquement en ce qui concerne la sacrification de ce sacrifice à l'extérieur du sanctuaire, Aval Beha'ala'a, mais en ce qui concerne le fait de l'offrir sur un autel extérieur, Karet Nami Mechayev, cette personne sera aussi condamnée à une peine de retranchement dans le monde futur s'il l'a offert sur un autel extérieur. Il dit Maïtama, quelle est la raison, pourquoi? Il répond à Makra, car le pasouk dit dans Vaikra Yudzaïn, c'est le deuxième passage qui parle de l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur, Ve'alehem Tomar, et à eux tu diras, le Vav relie les deux paragraphes, Al-Hasmuchim Tomar, tu diras cela, donc ce que je vais te dire, l'interdiction d'offrir un sacrifice sur un autel extérieur, sur ce qui précède, et comme nous l'avons expliqué, la fin du paragraphe concernant l'interdiction de sacrifier un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire parle des sacrifices qui ont été sanctifiés alors que les autels privés étaient permis. Donc le deuxième paragraphe inclut aussi ces sacrifices et celui qui les offre sur un autel extérieur est condamné à une peine de retranchement dans le monde futur. Matkifla Rabba a objecté là-dessus, Miktiv ve'alehem tomar avec Aïn, et il dit, et sur eux tu diras, Alehem Ktiv, ou plutôt Ve'alehem Ktiv, le pasouk dit, et à eux tu diras, cette liaison se rapporte au Bnei Israël, et non pas nécessairement au passage qui précède immédiatement. Ve'od, et en plus, Tania, il est enseigné clairement dans une braïta, Arba Klalot Haya Rabbi Shimon Omer Bekodashim. Rabbi Shimon énonçait quatre règles générales en ce qui concerne les sacrifices. Higdishan Beshat Isur Habamot, s'il les a sanctifiés, donc les sacrifices, à l'époque où les autels privés étaient interdits, Veshachat Veheela Beshat Isur Habamot Bachutz, et il a sacrifié et a offert sur un autel extérieur, à l'époque où les autels privés étaient interdits, Harehen Be'ase Velot Ase Veshbain Karet, celui qui a fait cela a transgressé un commandement positif. En effet, le pasouk dit dans Vaikra Yudzaïn, et ils emmèneront ces sacrifices à Hachem devant la porte du sanctuaire, et il a transgressé aussi un commandement négatif, comme la Gemara l'explique au début du 13e chapitre, et il est condamné aussi à une peine de retranchement dans le monde futur, comme le pasouk le dit clairement. Et cela s'applique, soit si la personne qui a sacrifié ce sacrifice l'a aussi offert sur l'autel extérieur, ou soit si c'est une autre personne qui l'a offert sur un autel extérieur. Deuxième règle, Higdishan Beshat Eter Abamot, s'il les a sanctifiés, donc ses sacrifices, à l'époque où les autels privés étaient permis, Veshachat Ve'ela Beshat Isur Abamot, Bahutz, et il les a sacrifiés et offerts sur un autel extérieur à l'époque où les autels privés étaient interdits, Haren Be'ase Velot Ase, Ve'en Ba'en Karet, celui-ci a transgressé un commandement positif et un commandement négatif, mais n'est pas sanctionné à une peine de retranchement dans le monde futur. Troisième règle, Higdishan Beshat Isur Abamot, s'il les a sanctifiés à l'époque où les autels privés étaient interdits, Veshachat Ve'ela Bachutz Beshat Eter Abamot, et il les a sacrifiés et offerts sur un autel extérieur à l'époque où les autels privés étaient permis, Haren Be'ase Ve'en Bahen Lotase, cette personne a transgressé un commandement positif d'amener ce sacrifice devant Hachem, devant la porte du sanctuaire, mais il n'a pas transgressé de commandement négatif, étant donné qu'à cette époque, en général, les autels privés sont permis. Quatrième règle, Higdishan Beshat Eter Abamot, s'il les a sanctifiés à l'époque où les autels privés sont permis, Veshachat Ve'ela Beshat Eter Abamot, et il les a sacrifiés et offerts sur un autel extérieur à l'époque où les hôtels privés sont permis, patur mikloum, il est exempté de tout, il n'a transgressé aucune interdiction, et ce, comme le précise le Tosfot, même s'il s'est engagé à l'offrir sur un hôtel public. En tout cas, il est enseigné clairement dans cette braïta que les sacrifices qui ont été sanctifiés à l'époque où les hôtels privés étaient permis et ils ont été soit sacrifiés, soit offerts sur un hôtel extérieur, la personne qui l'a fait n'est pas sanctionnée à une peine de retranchement dans le monde futur, contrairement à l'opinion de Rav Kahana. La Gemara conclut, « Tchouvta de Rav Kahana Tchouvta », c'est une réfutation définitive de l'opinion de Rav Kahana. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Ve'elu kodashim » etc. Et voici les sacrifices qui doivent être sacrifiés sur un autel public, etc. Puis la Mishnah énumère les différences qui existent entre l'autel privé et l'autel public. Donc les lois qui existent pour l'autel public qui n'existent pas pour l'autel privé. Alors, la Gemara les énumère une par une pour en définir la source. Alors, la Gemara dit « Smicha » en ce qui concerne le fait de s'appuyer de toutes ses forces sur la tête du sacrifice avant sa sacrification, cette action n'existe que si le sacrifice est offert sur l'autel public, dirtiv, car le pasouk dit dans Vaikra Aleph, il amènera le sacrifice à son gré, l'ifne Hashem, vesamar. Il l'amènera donc devant Hashem, puis le pasouk suivant enchaîne, et il appuiera sa main de toute sa force sur la tête du sacrifice. Nous apprenons de là que cette action de s'appuyer de toutes ses forces sur la tête du sacrifice n'existe que devant Hachem, donc uniquement lorsque le sacrifice est offert devant Hachem, donc sur l'autel public, et non pas lorsqu'il est offert sur l'autel privé. Shritat Tzafon, le fait que certains sacrifices comme le Korban Ola doivent être sacrifiés dans la moitié nord de la cour du sanctuaire, ne s'applique aussi que pour le sacrifice offert sur l'autel public, dirtiv. Car le pasouk dit, toujours dans Vaikra Aleph, et il le sacrifiera à côté de la base de l'autel, Tsafona Lifne Hashem, dans la partie nord de la cour du sanctuaire, devant Hashem. Donc, cette prescription de sacrifier le Korban Ola dans la partie nord de la cour du sanctuaire n'existe que devant Hashem, donc uniquement dans le sanctuaire, et non pas lorsqu'il est sacrifié sur un autel privé. Matanot Saviv, le fait que les aspersions doivent être aspergé tout autour de l'autel, c'est-à-dire qu'il faut faire deux aspersions qui font quatre à deux coins opposés de l'autel de manière à ce que chacune des aspersions s'étale des deux côtés du coin, ainsi le sang est tout autour, donc sur les quatre côtés de l'autel, n'existe que pour l'autel public et non pas pour l'autel privé. Dirtiv, car le pasouk dit, toujours dans Vaikra Aleph, il faut lire « Vezarku et Adam à la misber saviv », etc., ils aspergeront le sang sur l'autel tout autour, le pasouk conclut en disant, qui se trouve devant la porte du sanctuaire. Nous voyons que cette prescription d'asperger le sang tout autour de l'autel n'existe que pour l'autel qui se trouve devant le sanctuaire, donc l'autel public, et non pas pour l'autel privé. Tnoufa, le fait de balancer vers les quatre points cardinaux et vers le haut, vers le bas, les graisses du korban shlamim, en même temps que la cuisse droite, et la poitrine avant d'offrir la graisse sur l'autel n'existe que si le sacrifice est offert sur l'autel public et non pas s'il est offert sur l'autel privé. Et cela, nous l'apprenons d'un pasouk dans Bamidbar Vav. Le pasouk dit « Vehenif hakohen ifne Hashem ». Le pasouk parle des sacrifices offerts par l'abstinent et le Kohen balancera vers les quatre points cardinaux et vers le haut, vers le bas, l'avant-bras droit et la cuisse droite et la poitrine en même temps que les graisses du sacrifice, et cela devant Hachem. D'ailleurs, dans Vaikra Yud aussi, le pasouk parle du fait de balancer les graisses du Korban Shlamim, il parle aussi de les balancer devant Hachem. Nous apprenons que cela ne se passe que devant Hachem, donc uniquement si le sacrifice est offert sur l'autel qui se trouve devant le sanctuaire, et non pas lorsqu'il est sacrifié sur l'autel privé. Hagasha, le fait d'approcher l'offrande à base de farine vers l'autel avant d'effectuer le prélèvement avec la main du Kohen, ne se fait que si cette offrande est offerte sur l'autel public et non pas si elle est offerte sur l'autel privé. Dirtiv, car le pasouk dit dans Vaikra Bet, Veigisha El Amizbeach, il l'approchera vers l'autel. Et comme le dit Rashi, il faut ajouter un autre pasouk dans Vaikravav, qui dit concernant l'offrande à base de farine, Hakrevotah ben Aaron lifne Hashem el pena mizbeach. Les fils de Aaron doivent l'approcher devant Hashem vers la face de l'autel. Nous voyons que le fait d'approcher l'offrande à base de farine devant l'autel ne se fait que devant Hashem. Donc uniquement si cette offrande est offerte dans le sanctuaire sur l'autel public et non pas si elle est offerte sur l'autel privé. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Rabbi Yehuda Omer, El Mincha Bebama, il n'existe pas d'offrande à base de farine sur l'autel privé. La Gemara dit Amarav Shechet, les divrei ha Omer Yesh Mincha Bebama, selon l'avis qui dit qu'il existe une offrande à base de farine sur l'autel privé, Yesh Ofot Bebama, il existe aussi des offrandes d'oiseaux offertes comme sacrifice sur l'autel privé. Les divrei ha Omer El Mincha Bebama, mais selon l'avis qui dit qu'il n'existe pas d'offrande à base de farine sur l'autel privé, En Ofot Bebama, il n'existe pas d'oiseaux offerts comme sacrifice sur l'autel privé. Car Rabbi Yehuda qui pense qu'il n'existe pas d'offrande à base de farine sur l'autel privé, c'est parce qu'il interprète le pasouk dans Vaikra Yudzaïn concernant l'interdiction d'offrir des sacrifices sur l'autel privé, qui emploie le terme de Zvachim, des sacrifices. Le pasouk qui emploie ce terme, comme la Gemara l'explique plus haut d'Afkouvav, parle de sacrifices qui ont été sanctifiés avant l'érection du sanctuaire dans le désert, donc lorsque les autels privés étaient permis, et du fait que le pasouk emploie le terme de Zvachim, sacrifice, Velom Nachot, ce terme vient exclure les offrandes à base de farine, donc lorsque les autels privés étaient permis, il n'y avait pas d'offrande à base de farine. Puisque c'est ainsi, Zvachim Velofot, nous pouvons interpréter aussi de la même manière que le terme de Zvachim, sacrifice, vient exclure aussi les oiseaux offerts comme sacrifice. Ve Kohen, et le fait que c'est impérativement un Kohen qui doit offrir le sacrifice, n'existe que pour les sacrifices offerts sur l'autel public dans le sanctuaire, et non pas pour ceux qui sont offerts sur l'autel privé. Dirtiv, car le pasouk dit dans Vaikra Yudzaïn, Vezarak HaKohen, etc. Et le Kohen aspergera le sang sur l'autel d'Hachem devant la porte du sanctuaire. Nous voyons que le fait que ce soit le Kohen qui doit effectuer le service est uniquement si le sacrifice est offert sur l'autel d'Hachem devant la porte du sanctuaire, donc sur l'autel public, et non pas s'il est offert sur l'autel privé. Bigdé Charet, et le fait que celui qui effectue le service doit porter les habits sacerdotaux pour le faire, n'existe que si le sacrifice est offert sur l'autel public et non pas sur l'autel privé, car le pasouk dit dans Shemot Kafret, et ses habits seront sur Aaron et ses fils lorsqu'ils viendront au sanctuaire ou lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, les charrettes Bakodesh, pour effectuer le service dans le saint, donc dans le sanctuaire. Nous voyons que ces habits ne sont pas nécessaires lorsque le service est effectué sur un autel privé, donc à l'extérieur du sanctuaire. Ou Klisharet, et le fait qu'il faut utiliser des ustensiles de service n'existe que si le sacrifice est offert sur l'autel public et non pas sur l'autel privé, car le pasouk dit dans Bamidbar Dalet, et ils prendront les ustensiles de service, Asher Ishar Tubam Bakodesh, avec lesquels ils effectuent le service dans le saint, donc dans le sanctuaire. De là nous apprenons que les ustensiles de service ne sont nécessaires que si le service est effectué dans le sanctuaire, donc sur l'autel public, et non pas s'il est effectué sur l'autel privé. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, le Reach Nichoach, et le fait que les sacrifices doivent dégager une bonne odeur, et de là nous apprenons qu'il est interdit de faire griller les graisses ou les parties du sacrifice avant de les offrir sur l'autel, n'existe que si le sacrifice est offert sur l'autel public et non pas sur l'autel privé. La Gemara dit, dirtiv, car le pasouk dit, dans Vaikra Aleph, le Reach Nichoach l'Hashem, ce sera une bonne odeur pour Hashem, donc c'est uniquement si le sacrifice est offert devant Hashem dans le sanctuaire que les sacrifices doivent dégager une bonne odeur, il est interdit de les faire griller avant de les faire brûler sur l'autel, mais si le sacrifice est offert sur l'autel privé, cette interdiction n'existe pas. Mechitza Bedamim est le fait qu'il existe une limite pour le sang, donc le sang de certains sacrifices est aspergé dans la moitié inférieure de l'autel, tandis que le sang d'autres sacrifices est aspergé sur la moitié supérieure de l'autel, comme le sang du Korban Khatat, n'existe que si le sacrifice est offert sur l'autel public et non pas s'il est sacrifié sur l'autel privé. Donc, lorsque le sacrifice est offert sur l'autel privé, son sang peut être aspergé n'importe où. Dirtiv, car le pasouk dit dans Shemot Kavzaïn, concernant l'autel, Vehaïta ha-reshet ad chatsia mizbeach, et la grille, qui était en fait une décoration sur l'autel, arrivait jusqu'à la moitié de l'autel. Et cette grille marquait la limite de la moitié de l'autel, donc jusqu'à où le sang des différents sacrifices, comme celui du Korban Ola ou du Korban Shlamim, pouvait être aspergé, car le sang de ces sacrifices n'était aspergé que sur la moitié inférieure de l'autel. En tout cas, le pasouk s'exprime en disant « Hamizbeach », le « He » exprime une restriction, qui veut dire que cette limite n'existait que sur l'autel public et non pas sur l'autel privé. « Richutz yadaim veraglaim », le fait que ceux qui effectuent le service doivent se laver les pieds et les mains avant d'effectuer le service n'existe que si le sacrifice est offert sur l'autel public et non pas s'il est offert sur l'autel privé. Dirtiv, car le pasouk dit dans Shemot même, ou bekorvatam el hamizbeach yirchatsu, et lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, ils se laveront les pieds et les mains. Là aussi, le pasouk s'exprime en employant le terme de hamizbeach. Le he exprime une restriction pour dire que cette obligation de se laver les pieds et les mains avant d'effectuer le service n'existe que si le service est effectué auprès de l'autel public et non pas s'il est effectué sur l'autel privé. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zvachim Daf Kuf Yud Tet. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Kuf Raf. Nous commençons à la 11e ligne du bas de la page, soit à l'avant-dernière ligne des petites lignes. Nous avons vu jusqu'à présent, dans la Mishnah que nous avons vu au début du chapitre et dans la Gemara précédente, les différences qui existent entre les sacrifices offerts sur l'autel privé et ceux offerts sur l'autel public. Il y a notamment celle qui va être reprise dans la Gemara, c'est que les parois de l'autel public sont partagées dans la hauteur, la partie inférieure est destinée à l'aspersion du sang de la plupart des sacrifices, comme le Korban Ola, Korban Shlamim, etc., et la partie supérieure est réservée pour le Korban Khatat et pour l'oiseau offert comme Korban Ola. Ce partage n'existe pas pour l'autel privé. Pour le passage suivant de la Gemara jusqu'à la fin de la page, il existe une autre version que celle que nous avons sous les yeux. Il s'agit de la version présentée dans la note marginale, qui est aussi interprétée par Rashi. Nous allons donc lire ce passage dans la Gemara selon la note marginale. Amar Rami Balchama, Loshanu, nous ne disons cela que sur les parois de l'autel public, il y a un partage, donc la moitié inférieure est destinée à l'offrande de la plupart des sacrifices, tandis que la moitié supérieure est destinée à l'aspersion du sang du Korban Khatat et du sang de l'oiseau offert comme Korban Ola. Et là, Bekotche Bamagdola, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de sacrifices qui ont été désignés pour être sacrifiés sur l'autel public, Veikrivo Beba Magdola, et ils ont été effectivement sacrifiés et offerts sur l'autel public. Aval Bekotche Bamaktana. Mais s'il s'agit de sacrifices destinés à être offerts sur un autel privé, donc qui ont été désignés pour cela, Vekarvinhu Beba Magdola, et ils ont été offerts sur un petit autel, c'est-à-dire sur un autel privé, et ce, comme le précise Rashi, voir le Tarat HaKodesh, même s'ils ont été sacrifiés à l'extérieur et on a fait rentrer ces sacrifices dans le sanctuaire pour l'offrir sur l'autel public, en chitsui, il n'existe pas le partage de la paroi du grand autel concernant l'aspersion du sang. Autrement dit, il pourra asperger le sang n'importe où. Metiv Rabba, Rabba a opposé là-dessus une braïta qui dit « Chazev veshok utrumat lachmetoda » le prélèvement de la poitrine et de la cuisse droite du Korban Shlamim et le prélèvement des pains spéciaux qui accompagnent le Korban Toda, Nohagin Beba Magdola, existe lorsque ces sacrifices sont offerts sur le grand autel, c'est-à-dire sur l'autel public, Ven Nohagin Beba Magtana, et n'existe pas lorsque ces sacrifices sont offerts sur le petit autel, donc l'autel privé. La Braïta ramène donc une différence qui existe entre l'autel public et l'autel privé. D'ailleurs, cette différence n'est pas rapportée dans notre Mishnah. Et de la manière dont s'exprime la Braïta, nous pouvons comprendre que les lois concernant l'autel public s'appliquent pour tous les sacrifices qui y sont offerts, même s'ils ont été destinés à être offerts sur l'autel privé. Puisque c'est ainsi concernant la loi présentée par la Braïta, il en sera de même pour les autres différences enseignées dans la Mishnah, donc aussi en ce qui concerne le partage des parois de l'autel public dans sa hauteur. L'Agmara répond, Emma, il faut corriger et lire la Braïta de la manière suivante. Nohagin bekotche bamagdola. Ces prélèvements en question existent pour les sacrifices destinés à être offerts sur l'autel public. Ve'en nohagin bekotche bamaktana. Mais ils n'existent pas pour les sacrifices destinés à être offerts sur l'autel privé, même s'ils ont été offerts ensuite sur l'autel public. Il en sera de même pour les autres différences entre l'autel public et l'autel privé. Ika de Amré, il y a une deuxième version de cet enseignement de Rami Bar Chama. Amar Rami Bar Chama, Lochanu, nous disons cela, qu'il existe un partage de la paroi de l'autel public dans sa hauteur, et la Bezman Bamagdola uniquement à l'époque où n'existe que l'autel public, c'est-à-dire lorsque les autels privés sont interdits. Aval Bezman Bamaktana, mais à l'époque où il existe les autels privés, donc lorsque les autels privés sont permis, Afalgav de Karvinu Bebamagdola, même les sacrifices offerts sur l'autel public, Enchitsui, en ce qui les concerne, il n'existe pas le partage de la paroi de l'autel dans sa hauteur. Donc, selon cette deuxième version, même les sacrifices destinés à être offerts sur l'autel public, leur sang peut être aspergé n'importe où. Métiv Rabba a opposé là-dessus la Braïta suivante. La Braïta dit, Chazé Veshok Utrumat Lachmetoda, le prélèvement de la poitrine et de la cuisse droite du Korban Shlamim et le prélèvement des pains spéciaux qui accompagnent le Korban Toda, Nohagin Be Bamagdola, existe pour les sacrifices offerts sur l'autel public, Ve'en Nohagin Be Bamaktana, mais n'existe pas pour les sacrifices offerts sur les autels privés. Et comme nous l'avons dit précédemment, il s'agit d'une différence qui n'est pas enseignée dans la Mishnah. En tout cas, selon la manière dont s'exprime la Braïta, les lois concernant l'autel public s'appliquent toujours sur l'autel public, même à l'époque où les autels privés existent. Il en sera de même pour les autres différences enseignées dans la Mishnah. Donc, c'est une question sur l'opinion de Rami Bar Chama. L'Agma répond, Emma, il faut corriger et lire la Braïta. Nohagin Bezman Gdola, c'est loi concernant l'autel public existe lorsqu'il n'existe que l'autel public, c'est-à-dire lorsque les autels privés sont interdits, Ve'en Nohagin Bezman Ktana, mais n'existe pas à l'époque où il existe aussi des autels privés, donc lorsque les autels privés sont permis, il en sera de même pour les autres différences. La Gemara poursuit, Upliga de Rabbi Lazar, et cet enseignement de Rami Bar Chama est en discussion avec l'enseignement de Rabbi Lazar. D'Amar Rabbi Lazar, Olat Bamat Yachid Sheikhnissa Bifnim, un korban olat destiné à être offert sur l'autel privé, et d'ailleurs a été sacrifié à proximité d'un autel privé, puis on l'a fait rentrer ensuite pour asperger son sang à l'intérieur. Kaltuha Mechitzot Lekol Davar, les parois du sanctuaire ou de la cour du sanctuaire l'ont accueilli pour toutes les choses, c'est-à-dire dès lors, le sacrifice a augmenté de sainteté et toutes les lois concernant l'autel public s'appliqueront pour ce sacrifice. Donc notamment, le partage des parois de l'autel dans sa hauteur existera aussi pour ce sacrifice et son sang devra donc être aspergé dans la moitié inférieure de l'autel. L'opinion de Rabbi Lazar est donc en désaccord avec celle de Rabbi Bar Chama selon les deux versions, car d'abord nous voyons, selon lui, que les lois concernant l'autel public s'appliquent même lorsque les autels privés sont permis, contrairement à l'opinion de Rami Bar Chama dans la deuxième version, et ces lois s'appliquent sur l'autel public, même pour les sacrifices destinés à être offerts sur l'autel privé, et d'ailleurs le sacrifice a été sacrifié à l'extérieur, puis on l'a fait rentrer dans le sanctuaire, contrairement à ce qu'a dit Rami Bar Chama selon la première version. Bah et Rabbi Zera s'est posé la question suivante. Olat Bamat Yachid, un korban olah destiné à être offert sur un autel privé. D'ailleurs, comme nous le verrons par la suite, cette question se pose aussi s'il s'agit par exemple d'un korban shlamim.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.